10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews. Cécile Cornudet,
Johan Usaï,
Mickaël Darmon.
Clément Beaune, bonjour.
Bonjour.
Alors pour la saison 4 du Covid-19 qui approche, eh bien vous avez joué le rôle de teaser toute la semaine. Donc en invitant, avertissant, vous nous direz exactement votre terme, les Français qui n'avaient pas encore réservé leurs vacances à ne pas aller donc en Espagne et au Portugal. Vos propos ont déclenché une mini-tempête touristico-diplomatique. Les faits vous donnent-ils raison? Vous nous le direz dans quelques minutes. On l'abordera en début de cette émission. A-t-on encore une fois de plus confondu déconfinement et fin de l'épidémie? Cette série sans fin, effectivement, continue avec un nouvel enjeu, cette fois-ci, dans le scénario, la vaccination. Au début de l'année, on manquait de seringues pour mettre les Français complètement à l'abri. Aujourd'hui, on manque de bras. Les Français récalcitrants qui ne veulent pas venir se faire vacciner. Demain, le président de la République doit dire comment convaincre et peut-être ne peut-on plus convaincre. Et maintenant, faut-il obliger, donc, en particulier les soignants et d'autres professions, à se faire vacciner. On le voit, le Covid-19 continue de contrôler l'agenda de cette fin de quinquennat. Une fois de plus, la relance est incertaine et les jours heureux peut-être remis au calende grec. Avec vous pour cette émission, eh bien, je salue Cécile Cornudet des Échos, Johan Usaï de CNews, qui vous pose la première question.
Bonjour Clément Beaune.
Bonjour.
Le variant Delta va-t-il venir gâcher notre été? Le professeur Eric Combe le craint. Pour lui, il y a une solution, la vaccination. Écoutez.
Il y aura une quatrième vague, elle est absolument inéluctable même. On peut dire que si les gens ne se vaccinent pas, il y aura une quatrième vague. Il y aura une quatrième vague dès la rentrée, peut-être même avant la rentrée. Et ça va compromettre ça va compromettre la rentrée. Enfin, on va repartir dans les mêmes soucis, dans les mêmes problèmes, alors qu'on a un vaccin efficace. Mais c'est pas possible d'entendre des choses pareilles.
Alors, conséquence de cette situation sanitaire inquiétante, Malte vient de décider de fermer ses frontières aux non-vaccinés. Est-ce que vous le regrettez? Est-ce que vous le condamnez même peut-être?
Non, je ne le condamne pas, mais je dis que la décision qu'a prise Malte est contraire aux règles européennes. Et je crois qu'il faut qu'on s'en tienne à notre cadre et l'appliquer pleinement. Ce cadre, c'est celui du pass sanitaire européen. On n'a pas toujours bien réussi à coordonner en Europe, il faut le dire, pendant cette crise. Mais pour une fois là, on a un pass sanitaire, c'est-à-dire un code que vous avez sur une feuille de papier ou sur votre téléphone, qui est le même partout en Europe et qui vous permet de circuler, c'est important, mais qui vous permet de circuler à une condition, c'est de présenter ce pass avec soit un test, soit un vaccin. Et ce qu'a fait Malte, c'est de ne reconnaître plus que le vaccin. Ça doit quand même nous alerter sur le fait que on voit bien que si la situation se dégrade, les tentations de fermeture, parfois même contraires aux règles, comme nous l'avons vu avec Malte, vont se multiplier.
Oui, mais c'est aussi ça veut pour dire ça. Que Malte trouve que le pass sanitaire ne suffit pas. Donc, est-ce que ça veut dire que le pass sanitaire est remis en question? Non. Est-ce qu'il faut le repenser? Et comment faire pour éviter qu'il y ait une contagion et que d'autres pays menacés par le Delta décident comme ça de s'en affranchir?
Non, je le dis, je pense que nous avons un cadre européen qui est harmonisé, qui est protecteur, et c'est celui-là qu'il faut appliquer.
Oui, mais Malte s'en affranchit, donc je le voit bien, ça ne marche plus.
Nous continuerons cette coordination. Pour l'instant, c'est heureusement un exemple isolé.
Mais on peut sanctionner Malte, par
exemple? Non, il ne s'agit pas de sanctionner Malte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on protège les vacances des Français, des Européens, dans des bonnes conditions sanitaires.
Mais pour que les choses soient claires, est-ce que vous appelez Malte à revenir sur sa décision?
Je préférerais qu'ils reviennent sur leur décision. Mais je vais vous dire, je préférerais qu'on passe notre semaine qui vienne à une chose. C'est que le cadre qui existe soit sécurisé et soit appliqué. Ce que je veux dire par là, c'est que le pass sanitaire, c'est une bonne chose. C'est test ou vaccin. Pourquoi c'est test ou vaccin? Parce que pour les jeunes qui, dans beaucoup de nos pays, ont aujourd'hui accès à la vaccination, mais depuis peu de temps, parfois ça a été compliqué. Même quand en France, vous commencez votre parcours de vaccination le 15 juin, vous n'êtes pas toujours vacciné. Et moi, je ne veux pas dire aux jeunes qu'ils sont privés de vacances. Je crois que ce serait injuste, je crois que ce serait excessif.
Est-ce que vous ne risquez pas de vivre toute cette semaine, justement, les effets d'entraînement de cette décision? On entend déjà dans d'autres pays européens la tentation de suivre l'exemple maltais.
Il y a deux choses là-dessus. Quand je disais que d'abord, il faut faire appliquer ce cadre, ça veut dire que les contrôles doivent être extrêmement stricts. Chaque passager, de chaque vol, dans chaque aéroport, doit être contrôlé au pass sanitaire.
Ça n'est pas le cas aujourd'hui?
Eh bien, ça n'est pas 100% le cas. Et donc, nous serons extrêmement stricts.
Oui, vous l'avez
même
fait remarquer vous-même récemment, d'ailleurs. Oui.
Nous ferons le contrôle du contrôle, parce que le contrôle, il incombe aux compagnies aériennes, dans les aéroports.
En les sanctionnant?
Avec des responsabilités, elles peuvent être sanctionnées, mais surtout, on vérifiera que chaque vol donne lieu à un contrôle systématique du pass sanitaire. Évidemment, si on n'applique pas l'outil qu'on a, on crée de l'inquiétude. et chacun se fait vacciner ou se fait tester avant de partir en vacances. J'appelle chacun à le faire, c'est obligatoire. Pour circuler en Europe, il faut le contrôler ensuite.
Autre exemple de cavalier seul, la Grèce, qui accepte sur son territoire des personnes vaccinées avec le vaccin chinois ou russe, qui n'est pas le cas dans le pass sanitaire. Est-ce que ça aussi, c'est pas condamnable ?
Condamnable, je ne sais pas, le mot est fort, mais on l'a dit, on souhaite que les vaccins qui soient reconnus en Europe soient uniquement les quatre qui sont validés. Ce n'est pas une question politique, c'est une question scientifique par notre Agence européenne des médicaments commune. L'immense majorité des pays européens, il n'y en a que trois qui font différemment, reconnaît uniquement ces quatre vaccins et c'est le cas de la France. Je regrette que la Grèce fasse ainsi. Je veux dire aussi que la Grèce, qui avait un système de contrôle qui semblait un peu fragile ces dernières semaines, a renforcé ses contrôles systématiquement à l'entrée sur le territoire.
Mais il faut une prise de parole européenne forte pour montrer qu'il y a une coordination qui existe.
D'abord avec Olivier Véran, tout au long de ces dernières semaines, nous avons fait ces efforts de coordination qui ont quand même porté leurs fruits parce que nous avons le pass sanitaire et ça n'est pas rien. Parce que nous avons dans l'immense majorité des pays, je pense par exemple au Portugal, je pense à l'Italie, qui sont aussi des grandes destinations touristiques, seulement les vaccins validés par l'Agence européenne qui sont reconnus. Je le dis aussi pour rassurer les Français, parce que ça c'est très important, pour notre propre territoire, on ne rentre pas en France avec le pass sanitaire si on a un vaccin russe ou chinois, pas parce qu'on discrimine une nationalité, mais parce que c'est ça qui est sûr, ce sont les seuls quatre vaccins qui ont été validés
alors,
par l'Agence européenne.
À propos cohérence et rassurer les Français, Yohann Uzaï.
Alors cette semaine, vous avez créé la polémique en déconseillant aux Français de se rendre en vacances en Espagne et au Portugal. Beaucoup d'émotions évidemment dans ces pays. Que dites-vous ce matin ? Les Français peuvent-ils partir en vacances en Espagne et au Portugal ?
Alors d'abord, je comprends l'émotion. Moi, je l'assume, je parle de manière directe et j'ai dit les choses parce que ce sont aussi les faits sur la gravité de la situation, pas pour alarmer. Mais pour informer de manière transparente, je crois que c'est mon rôle. Je regrette que ça ait pu créer du stress ou de l'angoisse à un moment où c'est bien
mais
normal.
Mais vous
les
persistez
Français
quand même
envie...
dans cet
oui, alors, ce
avertissement.
Que je dis, pour être très clair, parce qu'il faut détailler un peu.
Allez-y.
Pour être très clair. D'abord, il n'y a pas d'interdiction de voyager aujourd'hui en Espagne ou au Portugal. C'est le même cadre pour tous les pays européens. Mais je dis les deux choses. Hein. On peut y aller, mais passe sanitaire obligatoire. Test ou vaccin
est contrôlé. Est-ce que vous le déconseillez ?
Alors, j'y viens. Ouais. Il n'y a pas d'interdiction. 2, le pass sanitaire toujours contrôlé. Et 3, je passe un message de prudence, de responsabilité individuelle en disant que oui, ça n'est pas une stigmatisation ni une culpabilisation. Les zones aujourd'hui, c'est un fait.
Ça sent le recadrage, ça. Vous êtes en train de nous expliquer que finalement, vous avez parlé un petit peu trop vite.
Non, moi j'assume complètement d'avoir passé un message d'alerte et de transparence. Vous savez, moi, on m'a reproché à beaucoup de reprises, on nous a reproché d'être parfois trop laxiste sur les frontières. Moi, je ne suis pas un enfermiste, je suis pour la libre circulation en Europe. Mais à une condition de sécurité, c'est ce pass sanitaire, et en disant à chacun, moi, je crois à la responsabilité individuelle. Quand on fait ses choix de vacances, on doit savoir qu'en Espagne et au Portugal, la situation est très préoccupante. Et d'ailleurs, ces pays-là eux-mêmes, le Portugal a instauré la fermeture de certaines activités en soirée, ont pris des mesures parce qu'ils reconnaissent que la situation est difficile. Mais je prends simplement un exemple. Quand vous êtes vacciné, il n'y a pas de problème. Vous êtes protégé. Donc, vous pouvez aller sans crainte en Espagne ou au Portugal comme ailleurs. Quand vous êtes, par exemple, parce que beaucoup de gens m'ont écrit en parlant de leur situation individuelle, je les comprends. Vous êtes, par exemple, franco-portugais, ou vous avez de la famille au Portugal, que parfois vous n'avez pas vu depuis des mois. Moi, je ne vais pas vous dire, vous avez réservé vos vacances, fortiori si vous êtes vacciné, annulez, je ne dis pas cela. Mais si, quand vous êtes, par exemple, un jeune, beaucoup m'ont écrit aussi, que vous travaillez au mois de juillet pour payer vos vacances, vous n'avez pas encore choisi avec vos copains, là vous partez en août, eh bien je dis, évitez plutôt les destinations à risque et choisissez-en une autre.
Donc
ça me paraît
pour que les choses soient
une
claires,
décision de responsabilité individuelle.
Vous dites à ceux qui ont réservé leurs vacances en Espagne et au Portugal, vous pouvez y aller avec les précautions.
Et prudence sur place,
Mais vous dites aussi à ceux qui n'ont pas encore réservé leurs vacances, choisissez plutôt de rester en France et n'allez pas en Espagne ou
dans une autre destination.
Vous avez donc le sentiment,
c'est un message de recommandation et je pense que plus on appelle à la responsabilité individuelle, plus on est capable d'éviter les contraintes collectives.
Et vous avez le sentiment que justement les faits vous donnent raison puisque dans beaucoup de pays en Europe, on reprend des contraintes et on reprend...
Je
des,
le crois,
et
j'ai une courte expérience politique et une courte expérience dans mon ministère. Ce que j'ai vu dans cette pandémie, c'est qu'il faut avoir une colonne vertébrale et une ligne. Moi, je suis pour l'alerte, la responsabilité des règles, et c'est pour ça qu'on va contrôler le pass sanitaire de manière très stricte. Et je suis pour qu'on dise les choses. Les gens sont intelligents, ils comprennent bien qu'il y a une pandémie qui n'est pas finie. On a une arme, c'est la vaccination, donc pour être tranquille pour vos vacances, vaccinez-vous. On a simplifié, élargi l'accès. Et ensuite, chacun fait des choix en conscience. Mais moi, mon rôle, je le dis de manière cash, je l'assume, c'est de donner les faits et les informations.
Cécile Cornudet.
Vous dites qu'il y aura plus de contrôle. Il y a la Russie, par exemple, où la situation devient vraiment dramatique comparée maintenant à celle de l'Inde. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui un Russe d'aller, par exemple, à Bruxelles, parce que là, c'est plus facile de prendre une voiture et de venir en France. Est-ce que la coordination européenne, l'harmonisation des permet vraiment de limiter la circulation des pays très à risque?
Je suis toujours transparent. Si vous voulez que je vous dise qu'il y a que c'est du risque zéro, je vous dis que non. On n'a pas 100% des voitures, par exemple, qui circulent en Europe, qui vont être bloquées ou contrôlées. Mais nous avons un certain nombre de contrôles ciblés. Beaucoup de pays européens ont renforcé, notamment les gardes de la Russie, c'est le cas de la France qui l'a classé en rouge, mais beaucoup d'autres pays ont le même régime à peu près. Les cas où aujourd'hui...
Pas tous,
c'est vrai. Quand on regarde les flux, c'est quand même ça qui est important, les flux aériens, ils sont très limités avec la Russie. Nous, on contrôle et on impose la quarantaine systématique. Et le cas routier de quelqu'un qui est allé de Moscou à Berlin ou à Bruxelles, qui prend sa voiture, etc., c'est honnêtement des cas limités. Mais on fera un certain nombre pendant les vacances de contrôles ciblés, de tests ou de vaccins aussi.
Est-ce qu'il faut renforcer les quarantaines, justement, de ces pays à risque en
France ? Il faut surtout les appliquer de manière très stricte.
Ce qui n'est pas le cas.
On l'a décidé. C'est-à-dire, quand vous venez d'un pays rouge, pour être clair, vous avez un contrôle à l'embarquement, un contrôle à l'arrivée. Même quand vous êtes vacciné, vous avez un motif impérieux pour venir sur le territoire. Et la quarantaine.
Est-ce que c'est mal appliqué aujourd'hui ?
Écoutez, je n'ai pas vu tous les cas. Moi, je vous le dis très clairement, quand on sait des cas, par exemple, de manque de contrôle du pass sanitaire, moi je le dis, je n'ai pas de problème avec ça, et on renforce les contrôles. La quarantaine, on peut sans doute encore améliorer les contrôles, mais c'est sérieux. J'ai pu le vérifier dans un certain nombre de cas. Ça existe et c'est sérieux. Donc, appliquons bien nos dispositifs. C'est comme ça qu'on sera le mieux protégé.
On s'aperçoit, alors qu'on est juste avant là, de continuer, de s'arrêter quelques instants, on s'aperçoit qu'une fois de plus, on est en train de vivre un été où on pensait que l'épidémie était terminée, parce que le déconfinement avait été lancé, parce que le retour à une vie normale avait été annoncé, et on est rattrapé par ce virus. En fait, c'est la réalité nouvelle, c'est ça au fond le véritable nouveau monde, c'est non. Le virus est là en permanence.
D'abord, il faut quand même regarder avec optimisme la situation. Les chiffres, on l'a vu, la situation de la France augmente en nombre de cas, les hospitalisations n'augmentent pas. La vraie, vraie grande différence avec les vagues que nous avons connues, et c'est un succès, c'est que nous avons le vaccin. L'arme atomique, si je puis dire, contre le virus, ses formes graves de contamination, c'est le vaccin. Et notre première priorité, c'est de déployer la vaccination. On a simplifié, facilité, on peut se faire vacciner en deuxième dose sur lieu de vacances, on peut moduler l'espacement entre les doses pour mieux se protéger. Donc je dis à tout le monde, foncez, il n'y a pas de fatalité, il y a une pandémie qui est là, c'est pour ça que moi j'ai alerté, chacun doit prendre ses précautions, mais nous avons deux armes. D'abord le vaccin, j'y insiste lourdement, et ensuite l'esprit de responsabilité de chacun, ça vaut pour les gestes barrières, ça vaut dans ses choix individuels de vacances, c'est cet esprit de responsabilité dans la vaccination et dans nos gestes du quotidien qui fera que oui, on va vaincre ce virus. Moi, je ne cherche pas l'alarmisme aujourd'hui. Je ne cherche pas à ce que les faits me donnent raison. Je vois qu'il y a une situation difficile et on peut la contrer par le vaccin et la responsabilité.
Et peut-être par l'obligation. On se retrouve dans quelques instants.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews. Cécile Cornudet,
Johan Usaï,
Michaël Darmon.
Et Clément Beaune, secrétaire d'État aux affaires européennes. La reprise est là, les emplois industriels repartent, les relocalisations se multiplient, tout cela va très très vite. Mais la quatrième vague du Covid-19 va aussi très très vite. Le président de la République reprend lui aussi ses allocutions solennelles. Ce sera donc demain. Cécile Cornudet.
Oui, Emmanuel Macron a toujours dit qu'il n'obligerait pas les Français à se vacciner. Or, manifestement, il va avancer dans ce sens, notamment pour les soignants. Est-ce qu'il a changé d'avis ?
Je ne parle pas à la place du président de la République. Il annoncera directement aux Français un certain nombre de décisions, d'orientations. Ce que l'on sait, parce que nous l'avons fait de manière transparente, c'est qu'il y a des concertations et des consultations depuis plusieurs jours avec les professionnels de santé, avec les élus locaux, sur un point spécifique d'abord, qui est la potentielle obligation vaccinale pour les personnels
soignants. Vous êtes pour ?
Ouais. Oui, moi j'y suis favorable, parce que ça ne tombe pas brutalement du ciel. On est dans une situation très différente de celle du début d'année. Notre première obligation du gouvernement, du ministre de la Santé, nous l'avons faite, c'est de donner accès au vaccin et d'abord au personnel soignant. Moi, dans toute ma famille, il y a beaucoup, mon frère est médecin, ma mère est infirmière, je connais leur engagement et ça a été très dur. On les a vaccinés parce qu'on leur devait. on leur a donné cet accès. Ça fait plus de 6 mois, ils ont été publics prioritaires. Et ils l'ont d'ailleurs bien fait, il faut le dire aussi. Parfois, certains ont attendu, certains ont eu des doutes eux-mêmes.
Mais c'est un échec, en fait. Non, vous n'avez pas réussi à convaincre tous les personnels soignants à se faire soigner.
Mais très largement, très majoritairement, en France, comme dans tous les pays.
Peu pour qu'il y ait encore des clusters provoqués par des soignants.
Cela arrive, et c'est pour ça que je crois, après avoir d'abord permis l'accès, avoir donné la possibilité de se vacciner, avoir donné du temps, et avoir laissé la place à la concertation, nous l'avions toujours dit, Olivier Véran l'a dit à plusieurs reprises, c'était une option. Aujourd'hui, je crois que c'est une hypothèse très probable et légitime.
Des sanctions, obligations, veut dire sanctions si jamais on y échappe.
Il faut y réfléchir, mais je crois que ça, c'est vraiment un dernier recours. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que finalement, l'obligation, si je puis le dire ainsi, est aussi une forme d'incitation. On l'a vu en Italie, donc on n'est pas les seuls à le faire. En Italie, il y a eu déjà cette obligation vaccinale. Le jour où elle a été annoncée, ça a très fortement augmenté la vaccination.
Une population déjà fortement vaccinée, quand il y a l'obligation en Italie pour les vacciner, pour vacciner donc les personnels soignants, ils sont déjà plus de 85% vaccinés, donc le problème est moindre.
Mais nous sommes à un niveau aussi très élevé, et je pense que l'alerte sur le variant, sur cette possible obligation ces derniers jours, a fait aussi que l'attentisme a été moins grand, que certains soignants spontanément se sont vaccinés. On a gagné en taux de vaccination. Et l'obligation qui est possible, qui est probable, pour les soignants, pour les personnels exposés, je crois qu'aujourd'hui, c'est une forme d'engagement collectif, légitime, encore une fois, parce que ça vient après avoir organisé la vaccination, après avoir laissé du temps.
La question de Cécile Cornudet est importante. Est-ce qu'il peut y avoir une obligation sans sanction?
Une obligation, ça veut dire qu'il y a potentiellement des sanctions, bien sûr, mais financières ou autres. Mais encore une fois, l'idée, c'est de donner le signal.
Sanctions financières?
Mais on verra ce qui est défini. Moi, je ne sais pas.
Ça, c'est sur la table, c'est une piste.
Mais quand il y a obligation, vous l'avez dit vous-même, qu'est-ce que ça veut dire une obligation s'il n'y a pas une sanction à la clé ou une vérification à la clé? Mais encore une fois, c'est un ultime, ultime recours. Moi, je ne crois pas que ça arrivera des sanctions, parce que je pense que si obligation il y a, ça donnera encore une fois ce signal qu'il faut une responsabilité plus importante encore chez les soignants. Je ne connais aucun soignant qui a envie de mettre en risque les personnes qui se sont engagées, qu'elles se sont engagées toute leur vie avec des conditions financières, de travail très difficiles. J'en connais aucun. Simplement, il y en a parfois qui attendent, qui se disaient que l'épidémie, comme tous les Français, était derrière nous. Et on découvre collectivement qu'il y a encore des risques. Et donc, c'est une arme supplémentaire dans notre arsenal pour lutter contre le virus.
C'est pourquoi lundi, quand le président va s'exprimer, ce sera encore plus que d'habitude, effectivement, un propos très sensible, parce que on comprend bien qu'il y a le risque là d'opposer deux catégories de Français. Et il y a également la décision à prendre sur est-ce qu'il faut élargir le rayon d'action du pass sanitaire. Est-ce qu'il faut également le mettre à l'entrée des cafés, des restaurants, de manière à pouvoir juguler aussi la contamination à l'intérieur de ces endroits?
Alors d'abord, pardon, sur l'obligation, un mot. Ça a déjà existé pour d'autres sujets. Je pense à l'hépatite, ça existe dans d'autres pays, donc il faut aussi relativiser. Ça n'est pas une forme de contrainte qui est complètement inattendue.
Mais là, c'est sous-tendu aussi par une démarche plus politique, parfois, de la part des récalcitrants.
Oui, ça, c'est votre interprétation.
Non, mais c'est ce que j'entends. Moi, je n'interprète pas. C'est ce qui nous remonte aussi.
Peut-être. Moi, je crois qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont simplement attendu, et que le signal d'obligation, si le président de la République fait ce choix, c'est aussi une façon de responsabiliser. Et encore une fois, moi, je ne veux pas culpabiliser ou stigmatiser. Ce n'est pas mon rôle et ce n'est pas ma position profonde. Sur d'autres mesures, le pass sanitaire, c'est une piste. Il existe aujourd'hui. Il fonctionne bien. J'insiste encore. La clé, c'est d'abord de contrôler parfaitement son application. On a parlé des voyages. On a parlé des boîtes de nuit qui, depuis 2 jours, peuvent rouvrir.
C'était une bonne idée d'ouvrir les boîtes de nuit au moment où le Delta enflamme tout.
Il faut, je crois, vivre avec le virus, malheureusement. Et vivre avec le virus, ça veut dire qu'on ne referme pas tout. Ça veut dire qu'on n'est pas dans des positions aussi dures que ce qu'on a connu dans les premières ou deuxièmes vagues, justement parce qu'on a le vaccin et parce qu'on a ce passe pour vérifier qu'on est testé ou vacciné. Et donc, ce qu'on a montré à travers l'ouverture qui a été maintenue en fin de semaine pour les boîtes de nuit, c'est que nous avons un outil et que c'est le passe sanitaire. Ce qui s'est passé, par exemple, en Catalogne, où il y a eu franchement des dérives, des dérapages, parfois y compris des jeunes Français qui ont fait la fête. C'est aussi pour ça que j'ai passé ce message d'alerte, c'est qu'il n'y avait pas de contrôle, pas de passe sanitaire, pas de masque, pas de test. Et donc nous, on le fait de manière sérieuse et protectrice.
Pour être extrêmement concret, est-ce que vous souhaitez que dans les prochaines semaines, il faille montrer un pass sanitaire pour aller au restaurant?
Alors, je pense qu'une réflexion qui est en cours, c'est effectivement potentiellement d'abaisser les jauges, d'étendre l'usage du pass sanitaire. On verra ce qui est décidé demain. Il y a un conseil de défense autour du président de la République, je ne préjuge pas.
Ça serait opportun ou pas ?
Je pense que ça fait partie des pistes de travail qui sont raisonnables. Oui, à partir du moment, moi j'avais dit au début que le pass sanitaire, fallait être très prudent. Mais on est dans un moment différent de ce qu'on a connu en janvier-février. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a accès au vaccin. Même un mineur a accès au vaccin. Ça prend encore un peu de temps pour se déployer, parce que ça ne fait que depuis le 15 juin que les jeunes ont accès au vaccin. Mais on n'est pas du tout aujourd'hui dans la même situation de vaccination qu'on était en janvier-février, où là, ça aurait été totalement injuste d'imposer un pass sanitaire, parce que les gens n'avaient pas la possibilité, même s'ils le voulaient, d'accéder au vaccin. On avait deux problèmes. L'approvisionnement en doses, et l'adhésion à la vaccination. On a réglé le problème de l'approvisionnement
en doses. Donc vous dites clairement ce matin, question d'adhésion. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez pas vivre normalement.
Pardon, j'insiste beaucoup, parce que c'est très concret, c'est très important pour ceux qui nous écoutent. Restaurants, cafés, etc. Je crois personnellement qu'il y a des activités de la vie courante, de la vie quotidienne, qui font aussi notre art de vivre, qu'il faut préserver de cette idée qu'on aurait des barrières d'accès. Donc un pass sanitaire... Abaisser les jauges, ça ne veut pas dire qu'on passe au tout pass sanitaire pour les activités de la vie courante. Je pense qu'on n'en est pas là. Moi, je ne le souhaite pas. Mais je le redis aussi, c'est parce que chacun fera un petit effort, chacun sera raisonnable, que nous pourrons éviter des contraintes collectives.
On attend également...
On a ces armes entre nos mains.
On attend également d'Emmanuel Macron qui se prononce sur la gratuité des tests. Faut-il les rendre payants pour inciter à la vaccination ?
Là aussi, je pense que c'est une question de moment. Aujourd'hui, les tests sont gratuits. D'abord, je le redis, parce que nous sommes le seul pays européen avec le Danemark à faire la gratuité des tests. Ça coûte à la collectivité. C'est un effort de solidarité légitime, mais important. C'est 5 milliards d'euros sur l'année 2021, donc ça n'est pas rien. Ce n'est pas gratuit dans l'absolu. C'est payé par la collectivité. Et aujourd'hui, c'est encore gratuit. Je pense que tant, par exemple, que les jeunes n'ont pas pu être complètement vaccinés, même quand ils le souhaitent, parce qu'il y a un petit délai, c'est bien d'avoir des tests abordables et même gratuits. À la rentrée, la question se posera peut-être de manière un peu différente, puisque tout le monde aura eu encore plus de chances et de possibilités d'être vacciné.
Il n'empêche, ça va créer quand même deux catégories de Français, l'extension du pass sanitaire, les vaccinés qui pourront avoir accès à tous et les autres. Vous ne craignez pas des tensions entre ces deux catégories ?
Vous savez, il faut être très humble sur la lutte contre ce virus, qui malheureusement est encore là, et sans doute pour quelques mois. C'est qu'il n'y a jamais de solution parfaite. Il faut toujours garder une ligne, je crois, d'équilibre et de justice. Encore une fois, mettre un pass sanitaire en janvier, c'était inconcevable. Parce que là, vous créez une société à deux vitesses et vous discriminiez les gens qui n'avaient pas la possibilité de se faire vacciner. Aujourd'hui, c'est très différent. Et à l'inverse, réfléchissons à ce que serait une autre solution. Si on disait plus de pass sanitaire, finalement vacciné, pas vacciné, tout ça, c'est pareil. Ceux qui ont fait l'effort d'accéder à la vaccination... Moi, je ne saurais pas leur dire, je ne suis pas ministre de la Santé, mais je ne saurais pas leur dire, vous avez fait l'effort d'être vacciné. Ça prend un peu de temps,
justement,
on peut avoir une douleur, je vous mets des contraintes collectives pour tous, pour vous protéger contre quelques personnes qui, elles, ne veulent pas se faire
vacciner. Je vous repose ma question parce qu'elle est importante. Vous dites clairement ce matin que ceux qui ne sont pas vaccinés ne pourront pas, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, vivre normalement ou
Attendez,
qui sont vaccinés.
Non, je dis, il y a déjà un certain nombre de différences en termes de voyage, en termes d'accès à des événements. Attention.
Mais ces différences sont
attention. Non, soyons précis. D'abord, aujourd'hui, le pass sanitaire dont on parle, qui crée cette différence, il est sanitaire et donc non pas vaccinal. Un test peut suffire. Bon. Ce que je dis, c'est que dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, sans doute, il faudra élargir l'usage de ces passes sanitaires, tests ou vaccins, et que je ne préjuge pas de ce qui va se passer. Je souhaite qu'on l'évite. Mais il y aura sans doute plus d'activités qui seront soumises à ce pass progressivement. C'est normal à mesure que la vaccination progresse. Mais je ne souhaite pas qu'on soit dans une société à deux vitesses. Olivier Véran l'a dit, je l'ai dit à plusieurs reprises.
Et juridiquement, ça risque de ne pas être bon.
Oui, par ailleurs. Mais encore une fois, on a deux armes entre nos mains, le vaccin, la responsabilité. Si on se vaccine et si on est responsable des petites choses, gestes barrières, etc., ça continue à être important. On peut éviter d'avoir des contraintes fortes et surtout éviter d'avoir des contraintes collectives. Je crois que la société ne le supporte
pas. On se retrouve dans quelques instants sur la deuxième partie des attentes concernant l'allocution présidentielle.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews. Cécile Cornudet,
Johan Usaï,
Mickaël Darmon.
Le président de la République a reçu donc effectivement les syndicats, les partenaires sociaux. On va en parler avec encore vous. Clément Beaune, que l'on retrouve donc pour cette troisième partie du grand rendez-vous. On écoute, on regarde Laurent Berger.
Pour nous, il n'y avait pas de voie de passage de toute façon sur une mesure purement paramétrique à l'automne prochain, et que ça nous paraissait totalement hors, hors de propos dans cette période où finalement le vrai sujet est, après la crise sanitaire que nous venons de traverser, dans laquelle nous sommes malheureusement encore un peu, le vrai sujet est de relancer, rassembler.
Laurent Berger s'exprime à propos de la réforme des retraites. Hein. C'est pour ça qu'il a dit donc son opposition à voir cette réforme relancée. C'est un avertissement. Est-ce que le président de la République peut passer outre ?
Et là encore, je ne préjuge pas de choix qui appartiennent au président de la République. Ce n'est pas ce qu'il en dira demain. Ce n'est pas à moi de me prononcer là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que sur la réforme des retraites, d'abord, il ne faut pas croire que réforme égale réforme des retraites, point barre. Ce qu'on a tendance à dire, est-ce qu'il y a encore un effort réformateur ? On a toujours continué à réformer, même au plus fort de la crise Covid. Il n'y a pas que les retraites comme
ça. Elle est emblématique, c'est celle que tous les Français comprennent et entendent.
Elle est importante, parce qu'on en parle beaucoup aussi, mais elle est importante. Sur le fond, après il y a la question du calendrier et du contenu, mais sur le fond, qu'il faille une réforme des retraites dans les prochains mois, je ne sais pas exactement quand, mais dans les prochains mois, c'est une évidence et c'est une réalité. Avant la crise de la Covid, le gouvernement avait proposé une réforme des retraites. Le constat est toujours là, à la fois sur les équilibres financiers, ça a même plutôt été dégradé par la crise, et sur une réforme de justice.
Qui avait provoqué des conflits,
oui,
qui avait
bien sûr,
des tensions mal expliquées, les Français ne la comprenaient pas.
Il y avait deux choses. D'abord, les réformes difficiles provoquent toujours des réactions. C'est aussi le courage politique que de les affronter. Je crois que la réforme qui avait été présentée par le gouvernement mettait, à mon sens, trop l'accent sur les paramètres financiers et on oubliait...
Donc beaucoup trop droitisé, selon vous.
Je ne sais pas si c'est le bon mot, vous l'appelez comme vous voulez. Mais je pense en tout cas qu'il ne faut pas perdre de vue, dans la réforme des retraites, l'idée qu'il faudra faire deux choses, et c'est l'équilibre qu'a toujours défendu le président de la République. Une réforme de fond, on appelle de manière un peu jargonnante systémique, c'est-à-dire l'unification des régimes, avec le principe que le candidat Emmanuel Macron avait posé dès la campagne... 1 euro de cotisation doit ouvrir pour tous les Français droit aux mêmes retraites et une réforme avec des aspects budgétaires et financiers, sans doute travailler plus, c'est une évidence aussi, parce que nous avons besoin de sauver notre système de retraite et le niveau des pensions.
C'est aussi la proposition du candidat déclaré Xavier Bertrand à droite qui lui dit voilà, il faudra travailler plus avec des réformes de justice, c'est la même réforme.
J'ai entendu Xavier Bertrand cette semaine le dire. Bon, il a été ministre des Affaires sociales un certain temps. S'il avait la martingale, il aurait pu le faire. Mais surtout, ce que j'ai entendu dans la bouche de Xavier Bertrand, c'est une réforme plutôt comptable et budgétaire. Qu'il faille rétablir les équilibres financiers de notre système de retraite, c'est une évidence, là aussi, je le redis, et c'est un fait. Mais faire que ça, je crois que ce serait incomplet et ce serait injuste, parce qu'il faut aussi transformer en profondeur le fonctionnement de nos régimes de retraite. C'était ça la promesse du président de la République. Et il y tient, je crois, et nous y tenons toujours.
Cécile Cornudet.
Une des idées dans cette réforme paramétrique, c'était aussi de donner un signal de maîtrise des dépenses publiques. Est-ce que la France, vous êtes bien placé pour nous le dire, peut arriver à la présidence de l'Union européenne en janvier prochain en étant le pays le plus endetté et sans avoir donné un signal de désendettement ?
Alors, pour chacun, d'abord, ce qu'on appelle paramétrique, c'est effectivement l'aspect budgétaire ou financier de la réforme, l'âge des parents en retraite ou les mesures qui consistent à faire travailler un peu plus longtemps. Moi, je le dis très clairement, et je le dis en tant que pro-européen totalement convaincu, il ne faut jamais faire une réforme pour Bruxelles. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de fantasmes là-dessus. On ne rétablit pas nos finances publiques, et il faudra le faire. Pour un commissaire européen
c'est
ou pour
différent.
Un bureau
vous
à Bruxelles.
Vous pouvez ne pas faire ça pour Bruxelles, mais dire quand même, on va être l'exemple, mais le pays regardé
si voulez,
à partir
si
de janvier,
que je vous
et
dise,
il faut montrer
oui,
qu'on est
sûr.
Sorti du quoi qu'il en coûte et qu'on a pris en
il
mesure...
Il faut de la crédibilité, il faut de la crédibilité dans le temps. On a dit, à nos partenaires européens, on l'a même écrit, donc ça n'est pas un scoop et ça n'est pas caché, dans notre stratégie d'investissement pour la relance, qu'on a partagé avec nos partenaires européens, que nous faisions une réforme de l'assurance chômage, qui est importante, que nous allions faire, le moment venu, une réforme des retraites. Maintenant, quand ? Je crois qu'on n'est pas à 6 mois près. Quand ? Ça dépend.
Vous pas 6 mois près, ça veut dire que ça peut être pour la campagne ?
C'est le président de la République qui le tranchera. Ce que je veux dire, c'est que les deux questions, c'est quoi ? Est-ce qu'il faudrait une réforme des retraites ? Oui.
Mais quand on dit ça, ça veut dire que personnellement, vous souhaitez que ça se fasse après ? Quand on dit on n'est pas à 6 mois près, ça veut dire ça
mais
peut attendre.
Je vais vous dire, moi je ne sais pas dire aujourd'hui quelle sera la situation sanitaire et donc aussi politique à la rentrée.
Et donc dire, il est urgent d'attendre.
Pas urgent d'attendre parce que personne n'est pris par surprise. Le président de la République n'avait jamais escamoté la réforme des retraites. Il avait demandé à son gouvernement de la commencer avant même la crise Covid. Il n'a pas changé d'avis, le constat est toujours le même. Il faudra en faire une. La question c'est quel est le temps parlementaire pour le faire ? Il faut de la concertation, il faut du vote parlementaire. Une réforme comme ça ne se fait pas à la hache et c'est bien normal. D'où la consultation aussi des partenaires sociaux. président de la République les a entendus. Et puis, je l'assume, ça dépend aussi de la situation de l'épidémie. La société française, notre énergie politique ne sera pas la même.
Vous avez dit le mot à l'instant.
Au début du mois de septembre,
votre énergie politique n'est plus la même. Parce que à cela, il faut aussi rajouter des élections qui ont été compliquées, une majorité qui parfois est un dispositif politique assez faible. Donc, est-ce que vous avez tout simplement, globalement, l'énergie encore pour continuer à transformer le pays comme vous vouliez le faire depuis
l'énergie réformatrice, le président ne l'a jamais abandonné d'un pouce. Regardez ce qui s'est passé même pendant la crise de la Covid, même quand on a pris encore une fois des mesures difficiles en début d'année. On a lancé par exemple la réforme de la haute fonction publique, de la fonction publique tout court, qui n'est pas une mince affaire, qui est très importante. Jamais nous avons arrêté en matière d'emploi des jeunes, en matière de relance. On nous a dit parfois que c'était trop tôt, parfois que c'est trop tard. On a tenu notre ligne. On a toujours continué à préparer la suite, à avancer sur d'autres réformes et à ne pas faire du tout Covid. On ne fera jamais du tout Covid. Maintenant, la disponibilité d'action, plutôt que l'énergie elle-même, dépend évidemment en partie de la situation sanitaire. Ça serait malhonnête de dire le contraire. Donc, une réforme des retraites, il faudra qu'elle se fasse. Le président de la République ne l'a jamais caché aux Français. Les Français savent aussi, je crois, quels sont ses souhaits en la matière et ses propositions. Il faudra du financier, il faudra du structurel, c'est-à-dire une réforme de justice et d'unification des régimes. Comment et quand ? Je ne sais pas encore vous le dire, d'abord parce que ça appartient au président et parce que ça dépend un peu de la situation pandémique.
On voit bien là quand même qu'il y a des hésitations et on comprend quand même que cette réforme des retraites, a priori, ne va pas se faire tout de suite.
Je ne sais pas le dire, c'est le président de la République qui le dira.
On constate aussi qu'il y a eu un taux d'abstention énorme aux élections régionales, que la majorité a subi un camouflet. Politiquement, la majorité est affaiblie. Est-ce que ça ne signifie pas quand même que, quelque part, le quinquennat, il est terminé ?
Non, c'est fini. Non, pas du tout. Ça, non, je ne crois pas. Et nous ne lèverons pas le stylo. Je veux être très clair. Pardon, mais ne mélangeons pas tout.
Tous les gouvernants, à cette époque-là, du quinquennat, l'ont toujours dit.
Vous connaissez beaucoup de gouvernements, même en Europe, puisque comparons ce qui est comparable à l'époque de la Covid, qui ont lancé des réformes aussi importantes que celles de la fonction publique, qui ont lancé des réformes aussi importantes qu'un plan de relance qui est le plus important d'Europe, qui lance des projets de réindustrialisation dans le domaine pharmaceutique, en même temps qu'on gère l'épidémie et la crise sanitaire, honnêtement, assez peu. Donc je ne demande pas qu'on nous juge sur notre bonne mine, mais sur les faits, et nous avons toujours continué la réforme de l'apprentissage, de territorial, avec une loi qui s'appelle 4D, qui paraît technique, mais très, très importante sur les compétences des collectivités, qui est en ce moment même discutée au Sénat sur le climat. Nous avons continué tout ça pendant la crise. Donc nous continuerons, et je ne résume pas effort de réforme aux retraites. Pardon, mais sur la question, c'est très important. Il ne faut pas faire, si je puis dire, une forme de gloubi-boulga politique. Il y a eu les élections régionales, qui sont des élections régionales. Elles sont une très mauvaise nouvelle. Parce que, d'abord, c'est une mauvaise nouvelle.
Emmanuel Macron a voulu nationaliser.
Je ne crois pas, mais je vous laisse votre interprétation. Mais regardons les résultats, pour être clair. Elles sont une mauvaise nouvelle, d'abord démocratique. On l'a vu, une abstention massive et dramatique. Et je le dis sans détour, elles sont aussi une très grosse défaite pour la majorité présidentielle et La République En Marche, à laquelle j'appartiens. N'en tirez pas de conclusion sur la capacité de la majorité parlementaire à agir ou la capacité du président à agir. Ça n'était pas une élection, un référendum sur le président ou sur l'action du gouvernement. D'ailleurs, sinon, je pense que plus de Français seraient allés voter, comme on le verra, je l'espère, aux élections présidentielles. Donc moi, j'assume totalement qu'il y a eu une défaite électorale, qu'il y a une défaite démocratique collective avec cette très forte abstention. Mais de grâce, n'en faisons pas non plus une forme de référendum sur les retraites. Je crois que les Français ne sont pas allés voter pour ça. Ils ont souvent soutenu les sortants parce qu'ils voulaient saluer leur effort dans la gestion de crise, peut-être, et je le comprends. Mais ça n'était pas un déterminant de notre effort réformateur.
Justement, sur l'abstention, comment essayer de faire revenir les Français vers les urnes, vers les isoloirs, pour qu'ils reprennent cette habitude de voter, ou alors on est sur une mutation contemporaine où le vote, tout simplement, est un rituel qui est en train de s'effacer comme d'autres.
Non, moi je ne crois pas à une dépolitisation de la société française ou de la jeunesse, on le dit parfois, ni à un désengagement politique. Il y a une abstention très préoccupante et il faut répondre de différentes façons. Il y a d'abord les aspects, si je puis dire, un peu techniques, mais qui sont importants. Les modalités.
Il faut moderniser le vote.
Oui, je crois. En tout cas, il faut ouvrir cette réflexion. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a lancé avec tous les partis politiques un travail qui aboutira à la fin du mois de septembre pour réfléchir au vote électronique, au vote par correspondance. Ça pose des questions, bien sûr, de fraude, etc. Mais de grandes démocraties savent très bien l'organiser. Ça peut stimuler, parfois même chez les jeunes, le réflexe de vote. Surtout, je crois que c'est encore plus important, ce sont les enjeux. Moi, pour le sujet qui m'intéresse plus directement, l'Europe. J'ai vu les élections européennes. on nous expliquait que l'élection européenne, c'était vraiment la cinquième roue du carrosse, ça n'intéressait jamais personne en France. On a augmenté 10 points en une élection, plus haut depuis 25 ans, le taux de participation. Je ne dis pas que c'est parfait, mais on a inversé la tendance. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un enjeu sur le climat, notamment à l'époque, ça a aidé aussi un certain nombre de partis écologistes à travers l'Europe, que les jeunes ont beaucoup plus voté, parce qu'il y avait un aspect aussi de défense du projet européen contre des menaces populistes. Bref, quand il y a des enjeux, les gens se mobilisent. Et au régional, parce qu'il y avait une fatigue liée à la crise du Covid, parce que la campagne n'avait pas pu se tenir complètement, parce qu'on ne sait pas toujours quelles sont les compétences des régions, il y a eu cette désaffection pour les urnes. Ce n'est pas une fatalité.
Et pourtant, le président s'était beaucoup impliqué. Cécile Cornudet.
Oui, en 2017, Emmanuel Macron, c'était le président réformateur, transformateur. Et là, vous nous dites quand même, il faut prendre en compte la situation sanitaire. Le pays est quand même fatigué. Il y a eu plusieurs crises dans ce quinquennat. Est-ce que là, l'enjeu, c'est plutôt un président protecteur qui doit arriver avec cette image-là à la présidentielle ?
Mais on peut faire un peu, si je puis dire ainsi, bouger le curseur entre protection et réforme. Mais je crois surtout que c'est exactement la même chose à la fin. Et le président a commencé son mandat en disant « libérer et protéger ». C'était ce diptyque qui était déjà très important. Ça n'est pas le macronisme, l'ultralibéralisme, ça ne l'a jamais été. Mais ça a été des réformes de début de mandat très ambitieuses, dont on a encore les bénéfices aujourd'hui, sur l'apprentissage, qui a permis d'augmenter l'apprentissage malgré tout.
On le voit quand même empêcher, par exemple, son Tour de France. Il devait prendre son bâton de pèlerin et faire le Tour de France, et finalement, il a fait trois ou quatre sorties,
ça
s'est arrêté.
Ça continuera. Il y a le temps des vacances, il y a une adresse aux Français, il y a bien sûr la situation sanitaire, on ne l'a pas caché, qui repart. Il faut être prudent, mais qui repart et il faut prendre un certain nombre de mesures dès maintenant, sans attendre pour le coup du tout la rentrée. Et puis, je vais vous dire, il y aura des réformes d'ici la fin du mandat. L'ADN réformateur du président, crois le connaître, il est intact. Et surtout, sa conviction profonde, c'est que protéger n'exclut pas la réforme. Je ne sais pas quel sera le timing, pardon pour le mauvais français, le séquencement exact des réformes, mais leur annonce, la transparence sur la réforme des retraites, elle est là. Qu'on continue la réforme sur le climat, qu'on continue la réforme de la fonction publique, ça continuera d'ici la fin du mandat. Pour ce qui me concerne encore plus, l'Europe, je peux vous dire qu'il y aura un certain nombre d'initiatives, d'annonces qui sont aussi des réformes très importantes au niveau européen, avant même la présidence française de l'Union européenne de la part du président de la République.
La transition est toute trouvée, on se retrouve justement dans quelques instants pour parler de cette présidence française de l'Union européenne.
10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews. Cécile Cornudet,
Johan Usaï,
Michaël Darmon.
Et on se retrouve pour cette dernière partie du grand rendez-vous avec Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes. Question de Johan Usaï.
Oui, Marine Le Pen qui a signé une déclaration commune avec des dirigeants européens populistes, dont le Hongrois Viktor Orban. En France, elle parle d'union nationale. En Europe, elle envoie des signaux à l'ultra-droite. Où est, selon vous, la vraie Marine Le Pen ?
C'est une bonne question. Ça dépend du vent. Marine Le Pen, c'est la girouette européenne par excellence. Ce n'est pas extrêmement rassurant pour quelqu'un qui va aspirer pour la troisième fois à la présidence de la République. On avait une Marine Le Pen, à la limite, qui était à peu près claire, embrouillée dans ses explications, mais claire sur le fond, elle voulait sortir de l'euro. Et ce n'était pas limpide, mais enfin sortir en gros de l'Union européenne, de Schengen, de l'euro en tout cas. On a une Marine Le Pen des élections européennes qui nous a dit « Maintenant, c'est très différent, j'ai plein d'amis en Europe, on va arriver à proposer des choses, on l'attend toujours ». Et puis maintenant, elle signe une déclaration avec M. Orban, avec une extrême droite néo-fasciste italienne. Moi, j'avais compris que Marine Le Pen avait quitté la xénophobie, le racisme et l'extrême droite, mais manifestement, ce n'est pas aussi clair. Et elle signe une charte, dont le contenu n'est pas très clair, mais qui fait l'éloge du lien transatlantique. Bon, pour un parti qui se réclame d'une forme d'indépendance nationale, maintenant gaulliste, mais enfin toujours assez anti-OTAN, par exemple, c'est assez peu clair. Et puis, je ne sais pas dire quel est son programme européen, Marine Le Pen. Ce que je sais dire, c'est qu'elle a reconnu sa défaite idéologique et son égarement intellectuel sur l'Europe. Puisque ce qui était le cœur de son projet européen, la sortie de l'euro, elle l'a mis sous le tapis.
Ça devrait vous rassurer, en fait,
tranquillement.
Bien sûr, on a
gagné ce combat idéologique. Tant mieux, je m'en réjouis. Mais maintenant, il n'y a plus de logiciel européen de Marine Le Pen. Il y en a un seul, peut-être. C'est le combat.
Elle veut changer le mode de fonctionnement de l'Union européenne.
Oui, mais comment ? Si vous le savez, moi, je n'ai pas lu, je ne l'ai pas compris. À part des grands mots, elle a dit d'ailleurs elle-même, je suis, je crois, pour la réforme de l'Union européenne actuelle. Donc, on a perdu un peu en ambition. Bon, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, si elle est d'accord avec nous, qu'elle le dise, tant mieux. Si elle a un projet alternatif, qu'elle le dise aussi, je ne l'ai pas compris.
Cécile
mais il y a un point qui est clair, c'est qu'elle s'est rangée du côté de M. Orban, sur les valeurs, pour l'homophobie, pour la discrimination, pour une lutte raciste.
Donc vous l'accusez de quoi ? Vous l'accusez d'être homophobe ?
Je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, elle s'associe à des gens qui
au
passent des lois homophobes.
Langage, c'est ça, vous dites, entre l'Europe et la France, il y a deux discours différents.
Non, je pense qu'il y en a, en fait, moi j'ai fait partie de ceux qui croient que le Front National est toujours le même, il prend des
avis
différents.
Vous aussi, vous ne voulez pas dire le Rassemblement National.
Mais parce qu'il est justement toujours le même.
Mais vous dites, je ne sais pas
et
si Marine
changer
Le Pen...
d'avis ne fait pas un changement de doctrine ou un changement de fond.
Ce que vous venez de dire est important, vous dites, je ne sais pas si Marine Le Pen est homophobe, vous avez un doute.
Ah ben, je pense plutôt qu'elle l'est, mais en tout cas, ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas de sonder son cœur, ce n'est pas ma préoccupation, c'est de savoir pour quelqu'un qui postule à la présidence de la République, qui veut avoir des alliés européens qui sont des dirigeants de pays européens, avec qui elle s'associe. Et avec qui elle s'associe ? Avec Vox, extrême droite espagnole, avec Fratelli d'Italia, extrême droite néofasciste italienne, avec Viktor Orban, qui, oui, lui, a passé une loi homophobe très dure, qui assimile tout simplement l'homosexualité et la pédophilie sous couvert d'éviter de la propagande. Moi, je ne sais pas ce que c'est que la propagande homosexuelle, il faut que Marine Le Pen s'explique. S'il n'y a pas la moindre ambiguïté dans son discours là-dessus, qu'elle se dissocie de Viktor Orban.
Plus constant, mais qui progresse quand même pas à pas. Il y a Xavier Bertrand qui dit maintenant, on a un match à trois, Le Pen, Macron et moi. Est-ce que de fait, il ne pourrait pas reprendre les électeurs de droite que vous aviez réussi à attirer ? Est-ce qu'il y a un risque pour vous ?
Mais dans une élection, non seulement il y a un risque, mais un match n'est... Qu'il soit 3, 4, 5, j'en sais rien. À plusieurs, sans doute, ça n'est pas fini. C'est d'expérience qu'à un an d'une élection, à 9 mois d'une élection présidentielle, on ne sait pas ce qui va se passer. Bon, M. Bertrand, lui, il a plus de certitude que moi, puisqu'il dit « je serai le deuxième, troisième homme ou le vainqueur ». Moi, j'en sais rien. Mais il faut prendre tout le monde au sérieux, M. Bertrand, comme les autres.
Pourquoi vous n'êtes pas certain que ce sera Emmanuel Macron qui sera le vainqueur de 2022 ?
Mais quand, tant qu'on n'a pas voté, moi, je n'ai aucune certitude. Ce serait d'une arrogance et tout simplement une erreur démocratique de penser que quelqu'un a une élection gagnée d'avance. Je pense qu'évidemment c'est possible, je le souhaite. Je souhaite qu'Emmanuel Macron soit candidat, je souhaite qu'il gagne pour un nouveau mandat, et je pense que c'est possible. Comme je pensais que c'était possible, longtemps avant l'élection précédente, où personne ne le croyait possible. Bon. Mais je suis un démocrate, fait peu de temps que je suis en politique, mais je suis ça depuis quelque temps. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc M. Bertrand, il a le droit de se présenter, il faut qu'il organise sa famille politique, parce que ça n'a pas l'air extrêmement clair, et pour l'instant, son programme, c'est lui-même. Et ses déclarations répétées de candidature. Il a fait des déclarations sur la retraite qui sont assez floues.
64 ans. Non, lui, pour le coup, il n'est pas flou sur les retraites.
Oui, mais enfin, est-ce que ça résume sa réforme des retraites ? Si c'est ça, c'est un peu court. Et il a dit qu'il faut aussi des mesures de justice. Il n'a pas détaillé lesquelles.
C'est pour les carrières longues.
Très bien, mais tant mieux, l'élection présidentielle permettra d'en discuter. Mais il y a une forme de happening permanent chez Xavier Bertrand qui ne fait pas encore un programme. Il a le droit d'être candidat. Je respecte infiniment et son parcours et sa famille politique. Je n'ai aucune certitude par avance. Lui, il ne devrait pas en avoir non plus de croire que les choses sont gagnées, à commencer par son propre camp.
Alors 2022, c'est votre année, en fait. Pas parce que vous serez candidat à l'élection présidentielle, quoique on ne sait jamais qu'il y a une surprise.
Je ne crois pas.
En tout cas, parce que la France va présider l'Union européenne et que vous êtes donc en charge au sein du gouvernement des affaires européennes. Et Emmanuel Macron, lui, est persuadé, et autour de lui, que c'est un atout pour sa présidentielle. Est-ce que c'est un atout ou un boulet d'être à la tête de l'Union européenne pendant une campagne interne en France, vu l'état de la société ?
C'est un atout, c'est un défi, c'est une responsabilité. Emmanuel Macron, il a parlé d'Europe en 2016-2017 comme candidat à la présidentielle. Tout le monde ricanait en disant « ça n'intéresse personne quand ça n'est pas franchement rejeté comme thème bon. ». On a assumé l'Europe et je crois qu'on a transformé l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe parle français comme jamais en 30 ans, elle ne parlait français en termes d'idées, de concepts, de réformes. C'est un début. Et cette présidence française de l'Union européenne sera l'occasion de dire tout ce qu'on a fait en Europe, que l'Allemagne accepte qu'on s'endette ensemble pour financer nos investissements, notre relance. Ce n'est pas une petite réforme. On ne nous parle plus aujourd'hui, tant mieux, du travail détaché, du dumping social. Ça existe encore, mais c'est beaucoup moins fort parce qu'on a réformé le travail détaché. Et je pourrais multiplier encore les exemples sur le climat. Par exemple, c'est nous qui avons défini l'ambition européenne de neutralité carbone. Donc, il y a toutes ces réussites que cette présidence doit être l'occasion de valoriser.
Comment parler le lundi, on est sur des tribunes pro-européennes, et puis le mardi, se retrouver face à des Français qui considèrent que l'Europe est un handicap et un adversaire.
Mais parce que c'est la même chose. L'Europe, ce n'est pas une forme de chapitre final d'un programme ou le dernier mot d'un discours quand on ne sait plus quoi dire. Emmanuel Macron, il a montré que c'était intrinsèquement lié, l'agenda européen et l'agenda français. Quand vous faites la réforme du travail détaché, vous la faites au niveau européen pour protéger les salariés les plus faibles. on travaille aujourd'hui, ce sera un des grands combats de la présidence française avec Elisabeth Borne, sur un encadrement des salaires minimums en Europe, non pas pour baisser le SMIC, au contraire, pour éviter la concurrence fiscale de la Bulgarie, de la Hongrie, de la Roumanie. C'est pas rien. Et donc, pour moi, c'est la même chose. Il n'y a pas un Emmanuel Macron de Strasbourg ou de Bruxelles et un Emmanuel Macron de Paris, de Clermont-Ferrand ou de Saint-Étienne. C'est le même programme, libérer, protéger, et la protection, elle se fera d'abord par l'Europe. C'est vrai pour le vaccin, c'est vrai pour la relance.
Et pour cette présidence française de l'Union européenne, le ministre en charge du sujet, en l'occurrence vous, peut-il être, entre guillemets, simple secrétaire d'État ou doit-il être renforcé?
C'est là qu'il faudra faire le remaniement.
C'est une question habile, je n'avais pas vu cet angle arriver pour le parler du remaniement.
Ah bah, pour une fois qu'on vous surprend.
Oui, alors non, moi je suis très heureux de ma responsabilité et je le ferai quel que soit le titre qui m'est accolé, ce n'est pas le sujet.
Et donc, vous aurez un rôle très important, pour ne pas dire majeur, dans cette présidence de l'Union européenne.
Bah, j'espère avoir un rôle important parce que le sujet sera important. Je vous dis aussi, la présidence française, c'est la présidence de tout le gouvernement.
Voilà, donc est-ce qu'il faut réorganiser le gouvernement pour se préparer à la présidence de l'Union française de l'Union européenne,
monsieur Darmon, est-ce qu'il faut, puisque vous posez la question, je ne l'évite pas, est-ce qu'il faut un remaniement? D'abord, c'est deux personnes qui décident d'un remaniement, et c'est la Constitution, le président et le Premier ministre. Et les spéculations qui sont régulièrement faites sont toujours démenties. Donc, moi, je ne m'aventure pas sur ce terrain.
Mais il faut que vous soyez renforcé, épaulé même peut-être.
Il faut que je sois renforcé en termes d'effectifs. Il faut, voilà. On en parlera avant la pause estivale avec l'ensemble des ministres du gouvernement, qu'on définisse précisément notre programme. Barbara Pompili sur le climat, Bruno Le Maire sur la relance, Elisabeth Borne sur les réformes sociales que j'évoquais. Ce seront eux, les ministres à la tâche avec moi qui coordonnerai, qui essaieraient de donner cette espèce de souffle général à cette présidence. Mais c'est un exercice collectif. Donc honnêtement, ne cherchons pas de lien avec un éventuel remaniement. Je crois que ce n'est pas le sujet.
Merci Clément Beaune. C'est la fin de saison. C'est aussi une fin de cycle pour le Grand Rendez-vous, sa forme actuelle. Je voudrais remercier toutes les équipes d'Europe 1 qui, chaque dimanche, ont travaillé à la préparation, réalisation de cette émission, en particulier Isabelle Moreau, Jean-Luc Arblad et les équipes Europe 1 Vidéo. Merci à mes compères et complices Cécile Cornudet, Nicolas Barré, Johan Usaï. La grande compétition de l'élection présidentielle va commencer. Je vous retrouverai d'ailleurs ailleurs pour la raconter. Ce sera un débat crucial pour la société française, avec ses deux principes, son amour pour la critique et sa passion pour la nuance. Bel été et portez-vous bien.
Merci. Europe 1.